Jésus répond aux Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Jésus va répondre sans difficulté aux Sadducéens au sujet d'une femme qui, successivement, aurait épousé 7 frères, selon la loi du Lévira. Gouallerie et leur plaisanterie douteuse tombent à faux devant la réaction du Christ. Question, la femme, donc, à la résurrection de qui sera-t-elle la femme, car les 7 l'ont eue pour femme? Évangile de Luc 20-33. Jésus leur dit, « Ne seriez-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car lorsque l'on ressuscite des morts, on n'épouse plus, on est comme ça dans les cieux. » Hébreux 12:24-25. Le ciel n'est pas du tout ce que les Sadducéens imaginent. Ils sont dans un univers matérialiste qui les empêche de réaliser la puissance de Dieu, de son amour envers nous. Il s'agit d'une nouvelle vie, celle-là même des dieux, rien que cela. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu en ces termes? Je suis le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Évangile de Matthieu 22:31-32. Telle est l'espérance de la vie éternelle. Ce n'est pas la vie terrestre continuée, mais la vie même en communion avec Dieu. Dans l'exclamation de Jésus devant leur étroitesse, vous êtes grandement dans l'erreur. On sent toute sa tristesse de voir des hommes enfermés dans une vision si mesquine du ciel et du royaume des dieux. Dieu est donc le Dieu des vivants et non des morts. Pour Jésus au ciel, nous sommes des vivants, des gens actifs au superlatif, car notre centre d'intérêt a changé du tout au tout. Nous vivons d'abord pour Dieu. Le rayonnement du Christ Jésus était si grand, si prenant, que ses ennemis ne peuvent échapper au désir de se mesurer avec lui, à paix pris qu'il se trouve par sa lumière même. Ils détestent cette clarté, mais ne peuvent nier l'éclat. Après l'échec des pharisiens sur les plans national, voici celui des Sadducéens sur les plans religieux et moral. Jésus se montre si percutant dans ses réponses que ses ennemis redoutent la discussion avec lui. Il répond avec une telle vigueur, un tel à propos, que bientôt personne n'ose plus l'interroger. Mais la crainte révérentielle de ses ennemis n'exclut pas la haine, malheureusement. Quelques-uns des scribes prenant la parole lui dirent, « Maître, tu as bien parlé, car il n'osait plus l'interroger sur rien. » Évangile de Luc 20:39-40. Jésus domine à ce point ses ennemis qu'après avoir subi leurs multiples attaques, c'est lui qui prend l'initiative et pose à son tour une question prise dans les livres saints. Il s'aventure sur leur propre terrain. Or, il dit devant eux, comment dit-on que le Christ est le fils de David? Car David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds comme escabeau. » David donc l'appelle Seigneur, et comment est-il son fils? Évangile de Luc 20:41-44. Jésus manifeste encore là son humour. Les spécialistes de l'Écriture ne savent que répondre, et devant le peuple, cela les embarrasse fort. Maître de la situation, Jésus passe à l'attaque, réprochant à ses ennemis leur soif de réussite, d'honneur, de domination. C'est le terrible réquisitoire de Jésus contre les scribes et les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, car vous n'entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui les voudraient. Évangile de Matthieu 23:13. Et Jésus note que leur manière de prier, de parler des choses saintes, d'acquitter les préceptes sont si révoltantes qu'elles détournent à jamais de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous dévorez les biens des veuves et faites semblant de prier longuement. Vous dites, si quelqu'un jure par les sanctuaires, il est tenu. Malheur à vous, hypocrites, qui a quitté la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, et vous avez passé sur les points les plus graves de la loi, la justice, la compassion et la bonne foi. Évangile de Matthieu 23, 14 à 23. Tous nous risquons plus ou moins pratiquer une religion routinière au mépris d'une religion tournée vers des relations profondes et toutes simples avec Dieu. Jésus et ses conseils. Jésus se révolte contre tout abaissement de l'homme qui se donnerait de tels docteurs sur la terre. L'homme est un être libre qui n'a qu'un maître, Dieu, qui est en même temps le Père. Et Jésus insiste, tous les hommes sont égaux parce que tous frères, fils d'un même Père. Peut-on nous apprendre quelque chose de plus grand et de plus beau sur l'homme? Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, étant vous tous des frères. Et ne donnez à aucun d'entre vous sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ. Le plus grand d'entre vous devra être votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Évangile de Matthieu 23, 8 à 12. Méfions-nous donc des maîtres, petits ou grands, et n'aliénons pas nos volontés. Méfions-nous des docteurs, tous ces maîtres de vérité multiples, qui toutes veulent s'imposer comme la vérité. Ce ne sont que des idéologies riches de vérité, mais vides de sens quand elles se donnent comme l'unique vérité. Un seul nous apporte la vérité, le Christ. Un seul nous apporte la liberté, le Père. Jésus vient de se donner comme le Maître, le grand docteur de l'humanité, et il nous donne aussitôt deux principes de sa sagesse. Jésus et la foi. Malgré ses œuvres, ses miracles, beaucoup ne crurent pas en Jésus. Quoiqu'il eût fait tant de miracles en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Évangile de Jean 12, 37. Toutefois, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne l'avouaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils préférèrent les honneurs qui viennent des hommes aux honneurs qui viennent de Dieu. Évangile de Jean 12, 42 à 43. Il apparaît que la foi ne tient pas compte simplement des miracles. On peut voir et ne pas croire. Il apparaît aussi que l'on peut croire, comme beaucoup parmi les chefs, mais que la peur de ceux qui sont en place rend muet. Pour éviter les quolibets des pharisiens et leurs persécutions, ils ont régné le Christ. Aujourd'hui de même, on peut voir que Jésus a raison et ne pas avoir le courage de le suivre, parce que les gens en place exercent une telle pression morale que personne n'ose afficher sa foi. La réponse de Jésus est extraordinaire. « Moi, lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais si quelqu'un a entendu mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles aura qui le juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. » Évangile de Jean 12, 46 à 48. Les hommes se refusent à la lumière. Mais jamais la lumière ne manque aux hommes. Jésus est donc venu en cette qualité de lumière, lumière incréée. Il quitte le sein de la Trinité pour venir parmi nous, nous apporter le reflet de cette splendeur de vie et de lumière d'où il jaillit. Et cela afin que celui qui croit en lui possède cette même lumière et quitte les ténèbres. On retrouve ici les mêmes thèmes que ceux du début de l'évangile de Jean. C'est l'équivalence entre lumière et vie. La vie était en lui, et la vie était lumière des hommes. Évangile de Jean 1, 4. L'équivalence entre lumière et vérité. L'équivalence entre la parole même de Dieu et la vie éternelle. Jésus renvoie toujours l'homme à son propre jugement. L'homme entend sa parole, et c'est à lui de la garder et d'y s'y conformer. Il est libre. Rien n'est automatique. C'est nous qui, pour Jésus, prenons en main notre vie, car c'est bien cette parole venue du Père qui nous apporte la lumière, l'intelligence de la vie. C'est elle qui juge notre conduite, d'où la nécessité de la connaître et de la recevoir. Moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais mon Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que j'ai à proférer et à dire. Et je sais que son commandement est vie éternelle, donc ce que je le dis comme me l'a dit mon Père. Évangile de Jean 12, 49 à 50. C'est dans la vie même de Dieu que Jésus puise ce qu'il nous enseigne. Ce sont les paroles que le Père lui dit éternellement, dont il est venu nous entretenir. Jésus est le don. Jésus sait voir. Il a noté les différentes attitudes des gens qui composent cette foule venue offrir leur argent dans le temple. Il a vu les riches en jeter beaucoup dans les trésors, mais de leur superflu. Il a vu la veuve jeter peu, mais de son indigence, et il en a été bouleversé. Jésus, levant les yeux, vit des riches qui mettaient leurs offrandes dans les trésors. Il vit aussi une veuve misérable qui y mettait deux petites pièces. Alors il dit, « Vraiment, je vous l'ai dit, cette pauvre femme a mis plus que tous. Tous ceux-là ont donné de leur superflu en offrande à Dieu, mais celle-ci a pris sur son indigence tout ce qu'elle avait pour vivre. » Évangile de Luc 21, 4. Pour Jésus, l'argent a une valeur très relative. Pour lui, c'est le cœur, l'intention qui importe. Il nous apporte donc vraiment l'espérance d'un monde tout autre que celui où la seule référence reste l'argent. La fin du monde est la parousie. On voit dans l'Évangile Jésus discuter amicalement avec les apôtres les sujets concernant l'avenir. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, vois quelle pierre et quelle construction !» Et Jésus lui dit, « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Évangile de Marc 13, 1 à 2. Devant la splendeur du temple, Jésus met en garde ses apôtres. L'essentiel ne réside pas là. Il ne voit pas l'avenir du monde dans la perspective d'un Israël terrestre, mais d'un Israël spirituel. Et ils l'interrogèrent, disant, « Maître, quand donc sera cela, et quel sera le signe lorsque cela devra arriver ?» Or, il leur dit, « Prenez garde d'être induits en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi, et le temps est proche, ne vous mettez pas à leur suite. » Évangile de Luc 21, 7 à 8. Jésus nous met en garde contre les faux prophètes qui à chaque génération surgissent. Et alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ ici, le voilà, ne le croyez pas, car il surgira de Christ, de faux prophètes, et ils fourniront des signes et des prodiges pour égarer s'il était possible des élus. Pour vous, prenez bien garde, je vous ai dit tout d'avance. Évangile de Marc 13, 23. Si nombreux sont ceux qui, au cours des siècles, se donnent comme le salut. Tant des doctrines philosophiques, religieuses, politiques, tant d'idéologies. Soyez intelligents, nous dit le Seigneur, sachez interpréter les signes. Voyez les figuiers et tous les arbres. Quand il bourgeonne déjà à cette vue, vous connaissez pour vous-même que l'été est proche. Évangile de Luc 21, 29 à 30. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Évangile de Luc 21, 31. Jésus se donne ici comme l'unique sauveur. Il est la pierre angulaire sur laquelle il faut construire notre vie. À toutes les générations se lèvent aussi des témoins suscités par l'Esprit de Jésus pour affirmer au péril de leur vie sa vérité. Mais avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous et vous persécuteront, vous conduisant aux synagogues et aux prisons, vous faisant comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela finira pour vous par le témoignage. Évangile de Luc 21, 12 à 13. C'est le Fils de l'homme qui a le pouvoir de constituer le monde nouveau. Mais en ce jour-là, après cette détresse-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa lumière, et les astres tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Eh bien, c'est alors qu'on verra le Fils de l'homme venant des nuées, avec grande puissance et grande gloire. C'est alors qu'il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Évangile de Marc 13, 24 à 27. Au fond, pour le Seigneur, il est bien plus important de faire la volonté du Père dans notre vie quotidienne que de courir après les prophéties. Pour Jésus, inutile de nous tracasser au sujet de la date de la fin du monde. Il juge inutile de nous la révéler. Il nous reste à être prêts et à aimer jusqu'à là. Peu importe la date, mais quant à ce jour-là, ou à cette heure-là, personne ne sait quand ils arriveront, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, personne absolument, si ce n'est le Père. Évangile de Marc 13, 32. Soudaineté de la mort. Autant Jésus juge inutile de nous donner les jours et l'heure de la fin du monde, autant il juge important de nous mettre face à face avec notre propre mort, celle qui réglera toute notre vie. Il faut donc être prêt et bien savoir qu'elle nous prendra sans nous avertir. Or, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la crapule et l'ivrognerie et les préoccupations de la vie, et que ce jour-là ne fonde sur vous à l'improviste comme un piège, car il atteindra tous ceux qui se trouveront sur la face de toute la terre. Évangile de Luc 21, 34 à 35. La liberté chrétienne exige de nous une attention et une lutte continuelle, en particulier dans une civilisation de bien-être comme la nôtre, l'effort est encore plus nécessaire. Jésus nous avertit, la mort agira comme le lacet du chasseur. Avec la même brutalité, elle nous précipitera dans l'autre vie. Et pour tous, elle révertira cette soudaineté. On ne s'habitue pas à la mort, car elle ne repasse pas. Mais justement, Jésus, dans une expression extraordinaire, dans sa puissante simplicité, nous demande d'être des hommes libres, des hommes debout. Veillez plutôt, priant en tout temps, afin d'être en état d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Évangile de Luc 21, 36. Parabole des 10 vierges. Veillez et priez. Veillez et priez, voilà les conseils de Jésus et son magnifique programme de dignité morale. Paraître debout devant le Fils de l'homme. Oui, paraître debout devant le Fils de l'homme, debout, la lampe à la main, Évangile de Luc 12, 35. Et cette image de la lampe suggère au Seigneur cette extraordinaire parabole des 10 vierges, parabole de la liberté face à la tendresse des dieux. En fait, Dieu veut qu'il y ait une intimité très grande entre nous et lui. Il est l'époux que le cortège de vierges attend. Jésus nous invite à prier afin d'être prêts au moment de la mort, à l'heure des dieux que nous ignorons. Jésus nous regarde comme des êtres libres, responsables de notre destin spirituel. L'huile de nos lampes pour les banquets des noces éternelles ne vient que de nous et de notre propre initiative. C'est ce que le Seigneur nous laisse entendre. L'époux se faisant attendre, les vierges s'assoupirent, toutes et dormirent. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux, sortez au-devant de lui !» Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et arrangèrent leurs lampes. Les imprudentes dirent aux prudentes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prudentes répondirent, « Sûrement, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Évangile de Matthieu 25, 5 à 9. Notre âme est en attente de Dieu comme une vierge libre, tout orientée vers son époux. Toute notre ardeur de recherche dans notre nuit terrestre dirige la lumière de notre espérance et de notre amour vers Dieu, époux de nos âmes. Pour Jésus, l'amour est un don personnel. Personne ne peut alimenter cette flamme. Elle ne brûle que si nous aimons. Voici l'époux, allez au-devant de lui. Les vierges folles qui n'ont pas d'amour ne peuvent attendre du secours de leur compagnon, compagne prévoyante. L'amour n'appartient qu'à celui qui l'a payé du don de lui-même. L'amour est comme l'huile qui brûle dans leur lampe et illumine le chemin qui conduit au Christ. C'est leur amour qui ne va qu'à l'époux et ne peut se livrer à un autre. À nous d'acheter notre huile, nous sommes des êtres libres de notre destin surnaturel. Le jugement dernier. Le Fils de l'homme aura le pouvoir de rassembler toutes les nations et de les juger. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous ses anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône de gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Et il les séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Évangile de Matthieu 25, 31 à 33. Il est très instructif de constater que le jugement dernier pour Jésus ne porte que sur notre attention aux autres. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez le béni de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais sans gîte et vous m'avez accueilli. J'étais sans vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Évangile de Matthieu 25, 34 à 36. Il est encore plus stupéfiant de constater que le Fils de l'homme ose s'identifier à tous ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont sans gîte, sans vêtements, qui sont malades ou qui sont en prison. N'est-il pas bouleversant de constater que l'attention réclamée par Jésus à l'égard des plus démunis est principale? Installer les royaumes des dieux, c'est donc s'occuper des autres et du même coup des dieux lui-même. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné de la nourriture ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu sans gîte et t'avons-nous accueilli ou sans vêtements et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, ce que vous avez fait à l'un de ceux, miens frères, à l'un de ces plus petits, c'est toujours à moi que vous l'avez fait. » Évangile de Matthieu 25, 37 à 40. Pour les autres, c'est le contraire qui les attend. Alors les maudits répondront eux aussi, disant, « Seigneur, quand avons-nous vu, et enfin, ou soif, sans gîte ou sans vêtements, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas rendu service ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous n'avez pas fait à un seul de ces petits, c'est toujours à moi que vous ne l'avez pas fait. » Évangile de Matthieu 25, 44 à 45. Le chemin de la liberté chrétienne passe obligatoirement par ce choix, Pensez à nos frères et sœurs, les aimer dans la réalité et non dans nos rêves. Le jugement dernier se référera à la seule charité envers nos frères et sœurs, et encore envers les plus démunis, les plus petits. Notre société est ainsi construite que nous ne voyons pas les petits, les blessés de la vie, les laissés pour compte de notre technique. La télévision nous montre nos monotonies interminables, banlieues, nos problèmes économiques nous font oublier aussi bien les milliards d'hommes du tiers-monde que les lazards de notre propre civilisation, le quart-monde. Il y a dans le monde et aussi chez nous les hommes, des femmes, des enfants qui survivent en ramassant nos miettes et restent de notre gaspillage. L'évangile de Jésus nous appelle à la vraie réforme de notre société. L'accès aux vraies valeurs humaines et culturelles pour tous, à travers le respect, l'éducation, l'instruction, des salaires décents pour tous, le travail pour tous, afin que disparaissent la faim, les mal vêtus, les mal logés, afin que ne restent pas désespérément seuls les malades, les prisonniers, les délinquants. Oui, l'espérance du royaume ne se réalise pas dans des fêtes éclatantes, et des conquêtes territoires et des technologies. Elle réside en ce que les pauvres soient évangélisés, mais d'abord aidés dans leurs besoins les plus élémentaires. Il est important de méditer sur les jugements derniers tels que Jésus nous les présente.